Au niveau de Survie Paris, quand on a construit ce mois de rencontres autour du génocide des Tutsis, enfin autour de la commémoration du génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda, on a essayé de développer un certain nombre de thèmes différents selon les soirées. Et on a tout de suite pensé à une soirée autour de la justice et de l'impunité pour parler, comme vous pourrez le voir la semaine prochaine, des différentes composantes de la justice au Rwanda, de la justice en France, des plaintes déposées sur sol français également, tout ça. Et puis en discutant avec Assunta du programme, en fait, on a évoqué les gachacha et pour la soirée de vendredi prochain, je trouvais que ça faisait énormément de thèmes, enfin pas de thèmes différents, c'était le même thème, mais c'était une soirée qui devenait énorme en fait, si on évoquait la totalité du contenu des gachacha, pas seulement de la partie théorique et de l'organisation qu'on a pensée autour de cette justice-là. Donc on a décidé de faire une soirée spécifique sur les gachacha à partir de la projection du film d'Anna Guillon. Voilà. Et donc on va vous expliquer aussi, parce que là dans le film plein de choses sont évoquées, mais je ne sais pas si tout le monde a les informations sur ce que sont les gachacha et qui elles sont amenées à juger et comment elles ont été instituées. Je sais que, par exemple, moi, je n'ai appris qu'hier soir qu'il y avait eu une préparation spécifique psychologique, en fait, des gens qui sont appelés à témoigner, qu'en tout cas, un livre avait été fait à ce propos par Nansen au Rwanda. Et j'avoue que... Enfin, bon, je me suis dit que si moi, j'apprenais à chaque fois, alors que j'essaye de m'informer régulièrement des tas de choses, il y avait effectivement plein de choses à dire. Alors, comme je l'ai évoqué un petit peu avant la projection, Assunta a travaillé avec Anna Guillon directement sur les gachacha et continue à le faire régulièrement, même en dehors d'Anne, à l'intérieur d'un travail à chaque fois il me revient les médias du génocide. Non, sur le... C'est pas ça. C'est sur le langage du génocide, mais j'ai tellement de mal à le dire, on se demande pourquoi. Alain, lui, c'est en tant que président du collectif des partis civils pour le Rwanda, donc l'association dont vous avez les documents au fond, sous le gros titre « Je porte plainte », l'association qui ici poursuit les présumés génocidaires réfugiés sur sol français. Et comme les gens ne seront pas là forcément d'ailleurs sur la soirée, je pense qu'il faut aussi développer cette partie-là un petit peu, bien un petit peu. Voilà. Voilà, je vous passe la parole, très cher.
Bon, on commence par quoi ?
On commence plutôt par réexpliquer un peu les gachacha. Même réexpliquer.
C'est des questions ou...
Oui, le film aussi.
Tu as bien fait d'ouvrir. Je ne crois pas que j'aurais pu ouvrir la séance juste après. Et même si ça paraît...
Parle bien un micro, je pense.
Un peu lassant peut-être à la fin, je tiens toujours à dire mon émotion et surtout mes remerciements aux gens qui acceptent de s'approcher d'un sujet qui donne envie de prendre la distance. C'est plus rigolo d'être dans une salle de cinéma ou d'être chez soi. On aurait aimé que des choses comme ça ne se soient pas passées et c'est courageux d'accepter de venir vers nous autres et qui n'avons pas trop le choix, parce que même quand on essaye de fuir dans la vie du quotidien, la nuit, ça finit toujours par revenir. Donc merci d'être là. Merci pour cette écoute, merci pour ce rappel que l'humanité existe encore. Donc, pour le film qu'on vient de voir, qui est un petit peu compliqué peut-être effectivement, est un film, en fait c'est un deuxième film. Après un premier qui s'était appelé Rwanda, les Gacaca, revivre ensemble, avec un point d'interrogation, Anna Guion, la réalisatrice, a continué, parce que les Gacaca, ça fait un moment que c'est lancé, ça continue, et peut-être même ça va continuer encore, ça va durer. Elle avait suivi en particulier le retour des gens qui avaient été accusés, qui avaient été mis en prison, qui, dans le premier film, n'avaient pas pu être libérés, comme le monsieur qu'on voit, qui s'appelle Abraham Gwanfizi. Et elle essayait de voir comment ces gens négocient, d'ailleurs comment chacun négocie se revivre. Parce qu'on ne peut pas renoncer, le prisonnier doit se refaire une place dans la société, qu'il soit coupable ou non coupable, quoi qu'il en soit, surtout s'il est coupable, il y a beaucoup de négociations. C'est des mécanismes individuels, mais qui impliquent aussi le groupe. En face, ceux qui doivent le recevoir, sa femme, ses enfants, qui peut-être le soupçonnent, mais qui en même temps ne peuvent pas renoncer à son statut du père, doivent aussi négocier pour lui retrouver sa place, avec peut-être une vérité difficilement acceptable. Je ne crois pas que ce soit facilement accessible de dormir chaque soir avec un homme, si on est convaincu de ce qu'il a fait. Mais il y a aussi les rescapés. Les rescapés qui, d'un côté, revoient un des leurs, la dame le dit, c'était notre enfant, même aujourd'hui, il reste notre enfant, on ne peut pas s'en laver. C'est leur enfant qui revient, certes, mais c'est l'enfant qu'elles accusent, les dames qu'on voit, accusent ce monsieur d'avoir tué. Donc, elle a essayé d'identifier ces mécanismes. C'est vrai, ça se passe au Rwanda, dans la préfecture de Gitarama, plus précisément à Nongwe, Gafumba. C'est Félicité, c'est le Gwanfizi, c'est d'autres gens. Mais quand on y va, au fait on arrive par ces mécanismes qu'on peut croire individuels, on y retrouve des mécanismes plus généraux. C'est ce qui est exposé un peu dans ce film, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, mais on voit vraiment ces négociations. Plus que de penser à se venger, ce qu'on a tendance à penser quand on est hors du contexte, c'est plus facile, hein, psychologiquement, quand il y a quelque chose de mal qui s'est passé, on aime savoir que soit ça a été réglé, que soit... on a exagéré, c'est pas aussi grave, ou encore, d'accord, il a reçu un coup, mais il en a rendu un ou deux, donc voilà, on est tranquille. Au fait, comme vous avez pu le voir, le film ne trahit à aucun moment le besoin spécial de se venger. Ce que chacun recherche, que ce soit l'accusé, sa famille ou les accusateurs, chacun essaye de voir comment vivre d'abord, moi, comment arriverai-je à vivre avec cette réalité, cette nouvelle réalité. Et la réalisatrice a continué à travailler, alors elle travaille vraiment dans un petit coin, c'est vraiment une petite colline reculée, j'allais dire village, mais en fait au Rwanda il n'y a pas de village, c'est une petite colline reculée où elle travaille depuis que les Gacaca ont commencé, il n'y a pas énormément de monde, ce n'est pas encore connu. Elle travaille avec les mêmes gens et en général, c'est en toute liberté. Elle dit que celui qui n'a pas envie de parler ne parle pas. Elle ne paye pas ceux qui acceptent de témoigner parce que souvent, on a vu qu'avec le rapport de l'argent, ça devenait un travail, ce qui fausse tout. Et chaque fois qu'elle finit de faire son film, elle retourne d'abord dans le village, dans la colline où elle est. Et elle a tourné, elle donne ça aux gens et après, elle laisse l'occasion de parler autour du film. Et ce qu'elle a pu constater, c'est qu'en général, il y a beaucoup de souffrance, ce qui est vrai, mais les gens finissent par dire, c'est bien quand même, finalement c'est bien que tu sois venu. Après lui avoir dit, non, 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 il ne faut pas nous faire autant de mal, c'est pas... Il y a les langues qui se délient. je sais, enfin, elle continue à travailler aujourd'hui. Les gachachas continuent au Rwanda aussi. Peut-être que partout ça ne se passe pas comme ça. Mais ces mécanismes, cette parole qui doit absolument se libérer d'abord pour soi-même, mais aussi pour sortir, parce que le propre du langage, c'est de s'ouvrir aux autres. Le premier objectif de Gachacha, qui est le fait de laisser sortir la vérité, continue au Rwanda. Bien sûr, ce film, pour celui qui n'est pas très au courant de ce que c'est les Gachacha, de comment se passe la justice au Rwanda, surtout que quand on en parle, souvent on a tendance à parler de tribunaux populaires, ce qui... On voit des lynchages. Moi, quand on dit ce mot, je vois des lynchages, je vois des têtes rasées, des choses comme ça. Ça se passe sur les collines. C'est inspiré d'une manière de rendre justice traditionnelle au Rwanda avant la colonisation, pardon. C'est-à-dire quand il y avait des conflits, des gens se réunissaient, on débattait, chacun prenait la parole, et après, on fixait l'amende à celui qui était reconnu coupable. Alors ça pouvait avoir plusieurs niveaux. Et quand c'était des choses gravissimes, en général, on s'adressait au roi quand c'était plus grave. Le génocide, avant de se dérouler, il a d'abord détruit les structures de la société rwandaise et quelque part replonger dans la culture pour essayer de sortir quelque chose qui devait aider les Rwandais à régler cette question impossible de juger 500 000 personnes, 800 000, on ne sait pas combien de personnes ont pris part au génocide. On a tendance à insister sur les 120, maintenant il y en a bien moins parce qu'on a libéré les jeunes, les malades et ceux qui ont avoué, mais ceux qui ont trempés dans le génocide au Rwanda dépasse largement les 150 000, même en poussant loin. La dernière évaluation qui avait été faite, je crois, par le PNUD, disait qu'au minimum 650 000 personnes ont dû donner la mort pour arriver à tuer autant de monde en 3 mois. Donc, il est impossible d'imaginer... une justice, hein, même aux États-Unis, je ne sais pas si on peut, enfin, je dis parler des États-Unis parce que c'est la grande puissance, hein, mais je ne crois pas, on ne voit pas quel pays pourrait juger les gens dans ces conditions-là. Donc là, c'est un outil culturel, mais qui vient aussi pour faire jouer à l'un des objectifs de la justice, c'est que la justice participe à l'écriture de l'histoire, cette histoire qui a été cassée. Donc les gens se parlent, ils parlent d'abord eux, mais ils finissent par se parler, on a vu quelques morceaux, et finalement ça libère la vérité, parce que beaucoup de gens ont pu retrouver les leurs, parce que les tueurs avaient daigné parler. Ils ont pu poser des questions, peut-être est-il les empêcher de dormir. Et il y a aussi des jugements. Et quand il y a un jugement, que la victime est reconnue dans son statut de victime, que le bourreau est reconnu comme bourreau, mais en même temps qu'on lui dise, pour être réintégré, tu devras faire ceci et cela, une fois qu'il a fait sa peine, cette justice l'a un peu, a mis de la distance entre le bourreau et le crime. Et ce qui serait coupable, c'est de confondre les deux. Et donc, ça marche avec des difficultés. Au départ, tout était basé surtout, tout l'intérêt était porté surtout au bourreau. Alors, ceux qui sortaient des prisons avaient droit dans des séjours de camps de solidarité où ils recevaient la formation. C'était important parce qu'ils devaient rejoindre. Mais, par exemple, on ne s'était pas assez inquiété de la difficulté de dire un génocide pour un rescapé. On avait pensé un peu à la peur. On avait dit qu'on allait vraiment protéger les gens. Mais une femme qui doit raconter qu'elle a été violée, que ce soit ici et encore là-bas, c'est toujours difficile. Exiger que quelqu'un parle de comment on a tué les enfants, on a vu des gens qui demandaient ça et qui après étaient incapables de supporter le choc. Ça n'avait pas été pensé tout ça, Mais c'est le propre du Rwanda. Devant une situation impossible, on essaie de mettre des solutions en place. Et quand on voit que ça ne marche pas, on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Puisque de toute façon, on ne peut pas laisser tomber, il faut avancer, qu'importe. Eh bien, on a commencé effectivement à se dire, il faudrait peut-être conseiller les rescapés qu'ils viennent. Maintenant, il y a un peu plus de rescapés, pas tous, bien sûr, qui acceptent les gachacha, qui comprennent que c'est une chose. On leur a fourni des outils, justement, maintenant, on se dit, ce serait bien de les aider à libérer leurs paroles, des choses comme ça. Je ne suis pas là pour chanter les hauts faits des gachacha, mais pour ce que j'en sais par mon travail, mais aussi en tant que Rwandaise, ayant des choses à attendre des gachacha, je crois que c'est quelque chose qui mérite qu'on regarde de plus près, qu'on en débatte, et peut-être même qu'on conceptualise ou qu'on théorise. Je vois des jeunes visages là-dedans, et peut-être des moins jeunes, pourquoi pas. Mais c'est un domaine qui demande à être investi. C'est ce que ce film montre un peu, sans entrer dans l'histoire du Rwanda. C'est un film qui essaie de baliser son terrain pour libérer plusieurs choses, qui demande à ce qu'on les approfondisse. Et c'est peut-être pour ça aussi que je vais ne pas occuper beaucoup de place pour laisser Alain parler un peu plus du dispositif théorique des gachacha. Et après, je crois que c'est le débat surtout qui amènera des questions et des réponses sûrement complémentaires.
Oui, bon, je ne sais pas. Sauf s'il y a des questions bien précises sur les gachacha, ou bon, je peux bien parler rapidement un petit peu de l'organisation, un petit peu des différentes catégories de crimes, enfin de criminels. Hein, donc il faut savoir que les personnes accusées de génocide au Rwanda ont été réparties en 4 catégories. Donc la première catégorie, c'est celle des planificateurs, des organisateurs, ceux qui ont agi en position d'autorité. Ceux qui ont des criminels de renom ou ceux qui ont commis des viols, ceux-là ne sont pas concernés par les gachacha. Hein, tous les criminels de la catégorie 1 ne sont pas concernés par les gachacha. Ceux-là sont jugés soit par la justice, je dirais, classique du Rwanda, s'ils sont au Rwanda, soit par le tribunal pénal international lorsqu'ils ont été attrapés quelque part, donc ils ont pu être remis au tribunal pénal international à Arusha, soit par les différentes juridictions nationales, qui pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup, qui ont été jugés par des États étrangers. Donc ça, c'est la première catégorie. Et sont donc concernés par les gachacha les 3 autres catégories, c'est-à-dire les auteurs ou les co-auteurs d'homicides volontaires ou d'atteinte contre les personnes ayant entraîné la mort, ceux qui avaient l'intention de tuer, ça c'est la catégorie numéro 2, ceux qui ont commis des atteintes graves sans intention de causer la mort des victimes, c'est la catégorie 3, et ceux qui ont commis des infractions contre les biens, vol ou destruction, c'est la catégorie numéro 4. Donc ce sont ces 3 catégories-là qui sont concernées par les gachacha. Et parmi ces 3 catégories, seules les catégories 2 et 3 pourront faire appel de la sanction imposée par les gachacha. Donc si au cours des gachacha, quelqu'un est reconnu, et ça arrive, on voit actuellement dans certaines gachacha, on voit des ministres, des généraux de l'armée, etc., être accusés de participation au gachacha, si ceux-là sont reconnus comme étant des planificateurs, eh bien les gachacha vont les renvoyer aux instances supérieures, c'est-à-dire la justice classique, la justice ordinaire du Rwanda. Alors au Rwanda, on a organisé environ 11 000, il y a eu 11 000 juridictions gachacha, hein, puisqu'on vous a bien expliqué que c'est une justice qui se faisait sur les collines. On réunit les voisins, donc on a multiplié les différentes instances, 11 000 juridictions, alors qui se passent soit au niveau de la cellule, c'est le plus petit regroupement, soit au niveau du secteur pour la catégorie numéro 3, soit au niveau des districts pour les catégories numéro 2 et les appels des catégories numéro 3. Et puis enfin, 12 juridictions de ce qu'on appelle de province. Alors bien sûr, maintenant, ça a peut-être changé parce que le Rwanda vient de connaître une restructuration complète au niveau administratif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus 12 provinces comme c'était le cas l'année dernière, mais il n'y a plus aujourd'hui au Rwanda plus que quatre provinces, quatre grandes provinces, la province du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, c'est très simple, plus la ville de Kigali. Donc je pense que ça a dû un peu restructurer un petit peu aussi l'organisation des Gacaca. Alors ce qu'il faut dire, c'est que les tribunaux Gacaca ne sont pas habilités à condamner à mort, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prononcer de peine de mort. Les condamnations des personnes qui avaient entre 14 et 18 ans au moment des faits, c'est un petit peu comme dans notre... ils ont été libérés, mais s'ils sont condamnés, la condamnation équivaut à la moitié de la peine de celle d'un adulte. Bon, c'est un petit peu comme ça, je dirais, aussi un peu chez nous dans la justice. Hein. La moitié de la peine de prison encourue par les prévenus des catégories 2 et 3, alors sauf ceux de la catégorie 2 qui refusent d'avouer, pourra être remplacée par une peine de travail d'intérêt général. Hein, puisque vous savez que quand même, les Gacaca, un des objectifs quand même des Gacaca, c'est aussi recomposer le tissu social et puis permettre aux gens de se réconcilier. Le mot est toujours un petit peu difficile à prononcer. Hein, le mot de réconciliation, mais dans l'optique quand même des responsables, c'est aussi cela. Quant aux prévenus de la catégorie numéro 4, c'est-à-dire ceux qui sont accusés de vol, bon, il y en a beaucoup, eux, ils n'encourent pas de condamnation, simplement, si aucun accord ne peut être trouvé pour la restitution des biens qui ont été volés, eh bien, la juridiction Gacaca fixera le montant des dédommagements à donner. Voilà un petit peu pour l'organisation de ces tribunaux. Alors évidemment, ce sont des procédures qui ont été, au début en tout cas, qui ont été très critiquées, je dirais en particulier par les grandes démocraties occidentales, parce qu'en effet, comment parler de justice alors que cette justice est rendue par des gens qui ne sont pas des professionnels de la justice? Effectivement, il peut y avoir des bavures. Ceci dit, même dans la justice traditionnelle, on le voit, même dans nos sociétés, on se rend compte que la justice est parfois rendue dans des conditions bien bizarres. Hein. Mais bon, c'était un petit peu un des reproches, une des craintes qui était faite. On se demandait aussi si les rescapés allaient accepter de témoigner, parce que ça demande sur la colline de se dévoiler. Et quand on voit ces femmes, là, dans le film d'Anne Aguillon, se lever et oser accuser devant tout le monde, oser de déclarer, je trouve ces témoignages extraordinaires. Enfin, plus chaque fois que je vois ce film, en particulier ce dialogue là à l'intérieur de la maison entre les deux femmes, on en sourit de temps en temps, mais elles ont une sagesse extraordinaire. C'est d'une force qui vous secoue vraiment. Hein. Donc c'était une des craintes. Hein. Est-ce que les rescapés allaient témoigner sans crainte des représailles? Or, il se trouve à l'usage que certaines personnes qui ont témoigné ont depuis été exécutées. Que certains prisonniers qui ont été libérés, pratiquement le soir même de leur libération, ont recommencé les mêmes crimes qu'ils avaient commis avec la même atrocité. Donc, il y a des raisons légitimes de s'inquiéter. Il y a des groupes de rescapés aussi qui craignaient, par exemple, qu'on aboutisse, si vous voulez, à une sorte d'amnistie générale déguisée. Bon, or, une amnistie générale, dans ces conditions, ne peut pas amener à la réconciliation. C'est pas possible. On ne peut pas envisager une amnistie générale. Oui, alors, il y a tout le problème aussi de bon, les Gacaca, c'était aussi pour ça, pour bien montrer aussi que c'en était fini de l'impunité. Hein, parce que pendant plus de 30 ans au Rwanda, tuer un Tutsi, ce n'était pas un crime. Ça n'a jamais été puni. Hein, tuer un Tutsi, c'était pratiquement se débarrasser puisque les Tutsis, c'était les cancrelats, les cafards. Donc tuer un Tutsi, c'était un acte de bienfaiteur pour l'humanité. Or, en insistant bien sur la justice et que tout le monde soit jugé, eh bien, on voulait bien montrer, le pouvoir actuel au Rwanda voulait bien montrer que c'en était fini de l'impunité. Alors, bon, Sega Chacha existe, je crois que le problème, c'est que, donc on voit bien les difficultés que ça pouvait poser, mais il y avait un certain nombre d'intérêts, et je crois que Sega Chacha, dont le point final est fixé normalement en fin 2007, c'est ce que le président Kagame a encore répété dans une interview qu'il a accordée le 29 janvier de cette année. Normalement c'est le but final est fixé 2007. Je crois que c'est bien, bon, c'est pas sûr que ce soit fini en 2007, mais je crois que c'est salutaire d'essayer que les gachacha ne traînent pas trop en longueur. Parce que malgré tout, quand on assiste à les gachacha, quand on voit comment ça remue les gens de l'intérieur, moi j'ai assisté à les gachacha, des femmes, une femme qui vient d'apprendre par exemple par le prisonnier qui est là devant elle que c'est lui qui a tué son mari, elle apprend ça 10 ans après, ce sont des moments extrêmement forts, très douloureux. Donc je crois qu'il n'est pas bon, personnellement je pense qu'il n'est pas bon que ces gachacha traînent trop en longueur. Elles sont indispensables, parce que c'était impossible de juger les 120 000 prisonniers qui étaient en prison. Et encore, on a dit qu'il y en avait 120 000 en prison, mais Assumpta vous a bien dit que finalement, on se rend compte avec les gachacha qu'il y en a beaucoup plus qui ont participé. Et le président Kagame, lui, évoque même 800 000. Dans ce... Voilà, 800 000. Il parle de 800 000 qui auraient participé d'une façon ou d'une autre. Bon, comment juger 800 000 personnes dans un petit pays où la justice a été complètement rasée? Bon, je crois que personne... Alors, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, mais personne n'a été capable de donner une autre solution. Or, je crois que c'est véritablement... Moi, j'en suis convaincu maintenant, même s'il y a des excès, même s'il y a effectivement des gens qui mentent, mais ça, c'est au juge de voir ce qui est mensonge, ce qui ne l'est pas. Je crois que c'était... C'est une justice qui marquera l'histoire du Rwanda, mais j'ai même entendu le représentant de l'Union européenne une année au Rwanda dire que le mot gachacha même devrait devenir un mot, je dirais, de tous les dictionnaires. C'est un mot qui devrait passer dans toutes les langues du monde entier, hein, parce que c'est vraiment un exemple pour essayer de trouver une solution à un problème qui était inextricable. Bon, voilà en gros ce qu'on peut dire, je pense, des généralités sur les gachacha. Maintenant, ça éveille peut-être en vous des questions. Peut-être qu'Assumpta a aussi des choses.
Juste tout à l'heure, Assumpta, quand tu as dit que les gachacha permettaient aux rescapés de retrouver les leurs, je pense qu'il faut être un peu plus précis. Les gachacha et la parole libérée permettent aux rescapés de retrouver les corps.
Bien sûr.
Et de les réenterrer. Oui. Et permettent aux gens de donner une sépulture individuelle aux gens de leur famille qui sont retrouvés comme ça. Voilà, c'était juste parce que ça me semblait un peu trop flou.
Et c'est vrai que c'est une chose importante pour les rescapés et pour les victimes. De pouvoir retrouver le corps de ceux qu'ils ont perdus. C'est une expérience, je dirais, assez bouleversante. Tous les ans, on ouvre des fosses communes. Au mois d'avril le prochain, donc dans quelques semaines, je connais des familles qui vont ouvrir enfin les fosses communes. Bon, elles attendent ça à la fois avec beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, et encore sont ceux qui ont de la chance. Personnellement, moi, je l'ai vécu dans le cadre de ma belle-mère. Je peux vous dire, il y a deux ans, je peux vous dire que c'est une expérience qui vous marque, parce que au-delà de retrouver les ossements, il y a tout le soin que l'on prend à récupérer tous les ossements qu'on trouve, à les laver un à un, à les faire sécher au soleil, une fois que tout est séché, à les remettre dans des cercueils où on les mêle à d'autres corps. Et tout ça se fait dans une ambiance où... parce que surtout des femmes, alors j'ai vu que c'était surtout des femmes qui participaient à ce travail, mais ça se fait, les femmes racontent des choses où on éclate de rire, puis en même temps, dans les 5 minutes qui suivent, où on pleure. C'est une veillée, c'est une sorte de thérapie par laquelle il faut passer.
Bon, c'est rigolo la manière dont j'ai parlé, au fait, ce n'était pas une erreur ou un oubli de précision. Le problème, c'est que c'est un sentiment à exprimer et je sais que c'est comme ça que nous parlons. On se téléphone, on dit, tiens, dans le cas d'Alain, par exemple, on disait, tu sais, c'est génial, on a retrouvé la maman de Dafrosa. Au fait, quand, ou bien moi, c'est, ah tiens, on a retrouvé ma maman, bah, peut-être qu'un jour on retrouvera tel autre. Parce que pour nous, effectivement, on sait qu'ils sont morts, comme disait le monsieur de tout à l'heure, même les tueurs n'ont pas d'argile magique pour refaire les nôtres. Et ce qui nous reste, effectivement, un, c'est de retrouver leur corps, ce qu'il en reste. Et si les gachachas le permettent, de savoir comment ils sont morts. Parce qu'il y en a qui ont été tués chez eux. Et là, nous disons, ils ont eu la chance, ils ont été tués chez eux. Parmi les chanceux, il y a plusieurs catégories. Ceux qui ont été tués par balle, ceux qui ont été machetés, ceux qui ont été jetés vivants. Bref, mais c'est notre vie et on l'accepte. Et ce n'est pas parce qu'on aime ce qui est impossible. Et ce qu'il y a aussi, ça c'est un petit témoignage à propos des gachachas. Individuellement, j'exècre les gachachas. Individuellement, c'est insupportable. Parce que on sait que la peine maximale qui peut être donnée par les gachachas, c'est 30 ans. On sait que les gens qui viennent dans les gachachas, comme ça se fait par colline, ils viennent en famille. Et vous vous retrouvez en face, seul. Ils savent en général qu'ils ne risquent rien. Votre maison tombe sur vous. Eux, ils sont. Vous avez pu voir. C'est ça. En fait, le film est d'Anne. Quand j'en parle, je ne sais pas par où commencer ou m'arrêter. On voit souvent les gestes du quotidien. Le mari est de retour. La femme va pouvoir faire du bois avec du feu de bois avec un bois solide, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Il peut cultiver avec une grande houe, avec l'énergie qu'on voit. On voit les vaches et compagnie. Ces choses-là ne sont pas accessibles pour la plupart des rescapés. Donc il y a tout ça qui fait que individuellement, les gachachas, on n'aime pas. Mais on n'est pas que des individus. On est aussi membres de collectivités. Et pour la collectivité rwandaise, mais je crois aussi humaine, les gachachas est une chance qu'il faudra aider les Rwandais. Et il faudra aider les Rwandais à s'en saisir et en faire un outil qui puisse pousser le plus loin possible. Et là, avant d'arrêter, je vais appuyer sur un point sensible pour nous les Français, le nombre d'étudiants et chercheurs anglophones, je ne dis pas américains, mais beaucoup d'Américains, et d'autres qui sont au Rwanda aujourd'hui dans le cadre des études sur la résolution des conflits, est étonnamment plus important que ce qui se passe au niveau de l'Europe, et en particulier la France et la Belgique. Ce qui se passe au Rwanda, on a tendance à parler de justice populaire, hein, sans plus, alors qu'en fait, plus que la justice d'ailleurs, je crois que c'est une tentative de règlement d'un contentieux énorme. Ça a l'air de pas trop mal se passer, et je n'oublierai pas un jour, alors qu'on a tendance à dire, mais regardez, en Afrique du Sud, ça se passe, pas si mal que ça, en oubliant qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas ce volet justice. Moi, je me souviens de quelqu'un, une fois, dans la salle, témoignait, un Africain du Sud, qui témoignait en pleurant, disant, quand même, ce que vous faites au Rwanda, c'est incroyable. On aurait voulu avoir ça, nous, en Afrique du Sud, et on n'a pas pu. Alors, c'est difficile de l'accepter individuellement. Pour la collectivité, on fait les efforts, comme tout le reste, d'ailleurs. Vous avez vu souvent les gens qui disaient, on se vengerait, mais à quoi bon, puisqu'il faut revivre. On fera des efforts, on ira avec. Et moi, je crois que c'est là où peut-être la communauté des Rwandais a besoin de la communauté des humains. Il faut aider ces gens-là à se convertir dans la collectivité humaine pour essayer d'avancer autant que sera possible avec les gachachas. Il y a des choses à améliorer, il y a encore des difficultés parce qu'on constate par exemple actuellement que les tueurs qui ont été libérés ont tendance à s'organiser entre eux d'abord, mais aussi avec ceux qui sont restés en prison, pour parfois accuser leurs victimes. On va s'entendre entre 5-6 personnes. On va dire, nous avons effectivement poursuivi telle autre personne, mais finalement, le coup de grâce a été donné, on va dire, le nom d'un rescapé. Et quand on demandera de témoigner, personne ne voudra témoigner pour ce rescapé-là. C'est des blocages qui sont créés. Après, on envisage, il y a eu de ces cas-là, après on a envisagé de faire des enquêtes ou de mettre les gens séparément et essayer de... Donc, c'est une tentative. C'est le mot vraiment capital au Rwanda. Je crois que c'est une tentative dans tous les sens. Chaque individu tente de revivre. La société tout entière tente de revivre. Qu'est-ce qu'on peut pour ces tentatives-là? Voilà.
Bienvenue aux questions. J'ai un micro à faire passer. Par là.
Merci. Bonsoir. Je voudrais savoir depuis combien de temps a commencé les jugements en fait. Oui, merci.
Ils ont commencé en 2001, mais au fait, le moment vraiment où ça a pris de l'ampleur, c'est quand le président a signé le fameux décret dont on entend parler, qu'on a commencé à dire les gens qui ont fait autant d'années, étant donné qu'ils risquent d'être condamnés à la moitié ou à un peu moins, au double du temps qu'ils ont fait ou un peu moins, il va falloir faire quelque chose. Mais l'année de l'entrée de Gachacha, c'était en 2001. Alors, avant, ce n'était pas sur tous les pays. On a d'abord choisi des zones pilotes.
Donc,
j'en reviens à mon concept, chérie, c'est la tentative. Il fallait faire quelque chose. On avait imaginé les gachacha, et comme on ne pouvait pas s'y lancer quand même, les yeux fermés, moi je ne bouge plus, on a choisi des coins où on a lancé les gachacha dans différentes régions du pays. Et donc, en 2001, effectivement, on avait démarré. Mais en 2003, ça a eu tendance à commencer à se généraliser, et maintenant, tout le pays, au fait, est devenu, je crois que c'est, avant ils travaillaient le lundi, après ils ont dit qu'ils préféraient les jeudis, dans beaucoup d'endroits c'est les jeudis,
ça dépend des préfectures.
Voilà, après on a dit aux gens qu'au fait on pouvait s'organiser et arrêter un jour de la semaine où ils faisaient ça, parce qu'à Kigali c'est le travail.
C'est mercredi, enfin, bon, ça dépend des...
Et au fait, ce qu'on n'a pas dit aussi, merci pour la question, c'est que les gachacha se composent de deux moments forts. Il y a ce qu'ils ont appelé la collecte des renseignements. C'est-à-dire, on regroupe les gens et on dénombre les gens qui habitaient là, à tel endroit, il y habitait tel monsieur, telle madame, ils avaient autant d'enfants et... la raison pour laquelle ils ne sont plus là, donc que ce soit des gens qui sont partis au Congo, qui ne sont jamais revenus, que ce soit ceux qui ont été tués, est-ce que pour des raisons politiques, est-ce pour appartenance ethnique, et ce qui est étonnant, c'est que souvent c'est pour appartenance ethnique. Et après, ça c'est en 90, on voit en 94, et après on commence à dire, donc en disant déjà il y avait tel mais tel autre manque. On demande, mais comment vous savez qu'il manque, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aussi les réunions, s'il y avait des réunions, parce qu'avant le génocide, il y avait eu des réunions pour les tenants de l'idéologie, qui devaient, les organisateurs, même au niveau des cellules, il y avait un monsieur qui était au-dessus des autres, qui menait la danse, excusez-moi de parler comme ça. Et donc, c'est d'abord l'identification des différents acteurs et de leur rôle, Et après, on essaye de savoir où sont les gens, qui a tué qui et pourquoi. Et c'est à partir de ces informations, bien sûr, il y a des cahiers. Au niveau de ce qu'on appelle la Nyumba Kumi, ça veut dire les 10 familles à peu près. Il y a avec des cadres bien préparés, bien paginés aussi, pour qu'on n'arrache pas et tout. Et il y a ce qu'on appelle le conseil de Gachacha, composé par ce qu'on appelle les Inyanga Mugayo, ça veut dire les gens intègres, avec des guillemets, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup qui se cachaient dans ce rôle-là pour ne pas avouer leur crime. Sauf qu'une fois qu'ils sont identifiés, normalement, ils ne peuvent plus faire partie des Inyanga Mugayo, des intègres. Donc on essaye de collecter le maximum d'informations. Une fois qu'on pense qu'on a fait le tour de la chose, on amène ça au niveau du bureau du secteur. Et il y a un groupe de personnes qui va essayer de qualifier, de catégoriser les différents crimes. Et c'est seulement après que peuvent commencer les procès. Alors, dans les parties qui étaient les parties pilotes, d'autres endroits aussi du Rwanda, ça a marché plus vite. Donc, on a déjà jugé et ça marche, ça promet. Par contre, il y a d'autres coins où ça coince encore, où visiblement la nouvelle idéologie de la vérité, de la réconciliation a du mal à passer. Donc ça continue et on espère effectivement, peut-être que d'ici 2007 ou peut-être 2008, ce sera terminé.
Je pense aussi, pour y avoir assisté, il y a certaines gachacha, par exemple, qui regroupent, où on a décidé de regrouper les intellectuels. Par exemple, à Boutaré, dans le sud du pays, j'ai assisté à des gachacha où c'était uniquement des intellectuels, des professeurs d'université, des médecins qui se retrouvaient. Et la parole était très, très, très difficile à libérer. Parce que, oui, ils savaient s'exprimer et on tournait autour du pot pendant très, très, très longtemps. Et ils avaient beaucoup de mal à essayer de se faire une idée de ce qui avait pu se passer.
Comment sont choisis les intègres?
Alors, normalement, pour choisir ce qu'on a appelé intègre, à une époque d'abord, quand on devait organiser les élections, il y avait eu besoin des gens irréprochables, si on peut dire, qui devaient organiser au niveau de la cellule la vie un peu administrative, politique. Et aussi, ces gens devaient prêter serment, qu'ils n'ont pas tué, dire que c'est des gens qui se comportent. Normalement, le Munyarwanda, le Rwandais, quelqu'un qui cherche toujours à être un Inyanga Mugayo. Donc, à la limite, nous devrions tous être des Inyanga Mugayo. Mais dans le cas du génocide, ça veut dire quelqu'un qui n'a rien à se reprocher pendant ce génocide. Et c'est la population, c'est les gens qui vivent avec lui. Lui, quand il se présentait, la population était invitée à dire effectivement, lui, je ne sais rien de mal sur lui, et vous, je ne sais rien de mal sur lui. Bien sûr, hein, c'est l'homme est ce qu'il est. Beaucoup avaient profité de ce moment-là en disant, ben, si je me fais passer pour un Inyanga Mugayo, je serai dans le conseil, je pourrai vous protéger. Il y a sans cesse des... Mais bon, en même temps, c'est ça la chance de travailler sur une petite échelle dans cette société où tout le monde connaît tout le monde. Hein. On a entendu tout à l'heure un monsieur qui répondait, l'accusé, on lui dit, il lui dit qu'il a remboursé la vache et on dit, et cet homme, il dit, je ne le connais pas. C'est une manière, c'est comme si tu disais, et alors, c'est vraiment, les gens se connaissent. Au Rwanda, les gens se connaissent. Nous n'avons pas de fichier d'état civil sérieusement tenu. Chacun dans la famille porte son nom. J'ai mon nom, ma soeur a son nom. Le nom de famille, pas les prénoms, je parle bien des noms. Mais il est impossible de disparaître dans la nature. Et là, en plus, comme c'est sur une petite échelle, on finit notamment les paroles se libérant. on a fini par identifier des gens qui se faisaient passer par des Inyangamugayo. Donc c'est la population qui décide qui sera son Inyangamugayo, même si l'Inyangamugayo doit proposer sa candidature. Mais beaucoup de gens se sont retrouvés plutôt dans la catégorie 1, la catégorie 1, tu vas aux assises, ou dans la première catégorie des gachachas, c'est-à-dire ceux qui risquent de couper de 30 ans, quoi, alors qu'ils voulaient se faire passer pour les Inyangamugayo.
Quel est le pourcentage des femmes dans les... Comment dites,
oui, si, dans les intègres.
Ouais.
Alors, déjà au Rwanda, il faut savoir que parmi les gens qui ont le plus survécu, c'est surtout les femmes. Les hommes étaient plus visés, une partie était dans l'armée gouvernementale, une autre chez les rebelles qui vont arrêter le génocide. Les femmes et les enfants ont pu mieux échapper au génocide parce qu'ils intéressent moins, un peu moins les tueurs. Et puis les femmes, on pouvait les violer, c'est peut-être difficile d'étrangler directement une femme qu'on vient de violer. Beaucoup de femmes qui ont survécu, quand on arrive à approcher leurs parents, elles ont été violées. On a souvent violé leurs enfants devant eux, tué leurs maris et leurs enfants, et souvent elles suppliaient en disant « Mais attendez, avant de tuer mes enfants devant moi, tuez-moi s'il vous plaît, tuez-moi, tuez-moi. » Et les tueurs qui prenaient malin plaisir disaient « Toi te tuer, non, tu vas mourir de chagrin. » C'est dingue la quantité de femmes qui ont cette histoire commune. Donc c'est parce qu'elles devaient mourir de chagrin, c'est parce qu'elles avaient été fait objet de plaisir sexuel de ces gens-là qu'elles ont survécu. Et puis il y a autre chose, je ne sais pas si c'est on peut généraliser ça, mais c'est drôle. Les hommes qui ont survécu au génocide sont encore plus abattus. C'est pas seulement devant la justice, ils ont du mal à s'en sortir. Peut-être parce qu'ils ont plus de culpabilité. Comment se fait-il qu'ils ont survécu alors qu'ils n'ont pas pu protéger leur famille? Comment se fait-il qu'ils ont survécu alors qu'ils n'ont pas pu protéger leur sœur, leur mère? Pourquoi ne sont-ils pas allés rejoindre les rebelles? Donc, c'est des gens qui, peu nombreux, restent les plus atteints de la société. Ils prennent moins de place. Mais on les voit quand même dans le conseil des gachachas. Et je ne sais pas si ce serait un gros risque de dire que peut-être dans les conseils des gachachas, c'est l'endroit où on va retrouver le plus fort taux de représentation féminine au Rwanda. Il y a même des gachachas qui sont dirigés carrément par des femmes.
Enfin, il faut dire aussi que dans la population rwandaise actuellement, je pense qu'il n'y a pas de pays au monde où il y a le plus de femmes qu'au Rwanda dans les différentes instances. Par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a au moins 30 ou 40% de femmes qui siègent à l'Assemblée nationale. Beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Oui.
Là-dessus, j'étais... Il se trouve par hasard que j'étais à une conférence mondiale des femmes à New York, là en février dernier. En fait, au Rwanda, il y a un pourcentage dans la constitution, la nouvelle constitution, le pourcentage obligatoire est de 40% de femmes à l'Assemblée nationale. Mais il y en a plus. Parce que quand elles se sont proposées, d'abord il y avait plus de femmes effectivement vivantes. Peut-être aussi un peu moins de femmes génocidaires. Aussi, parce que là tu as parlé des femmes rescapées, survivantes, mais aussi de l'autre côté un peu moins actives. Et en fait, elles ont été élues en tant que personne, pas seulement en tant que femme, pour avoir du pourcentage comme on voit dans d'autres pays, peut-être.
Oui, puis elle porte vraiment la société rwandaise, elle tient grâce aux femmes. On n'a peut-être pas un président, une présidente.
C'est des conséquences de la génocide, tout ça. C'est une conséquence aussi de la...
Il faudrait peut-être aussi que je précise, parce que quand souvent on pense à l'Afrique, on pense à la femme un peu de l'Afrique de l'Ouest. Au Rwanda, déjà, la femme, elle n'est pas très, très écrasée. Elle partage le pouvoir même du temps des rois. Il y avait le roi, mais il y avait la reine-mère aussi, qui exerçait pratiquement le même pouvoir. Parfois, elle était plus puissante parce qu'elle était plus expérimentée. Ça veut dire qu'elle avait été la femme du roi et en général, elle avait... Et les tâches de la vie quotidienne, même si la modernité a tendance parfois à fausser les choses, normalement, la femme et le mari partaient cultiver la parcelle. La femme rentrait avant pour faire à manger, ce n'était pas après. Les choses changent. Donc la femme, dans la société rwandaise, n'est pas très écrasée. Mais je crois, surtout après le génocide, je crois que les femmes, peut-être, nous avons plus les ressources pour reprendre le dessus. Mais c'est, la société rwandaise aujourd'hui se reconstruit d'abord par les femmes, à tous les niveaux, celles qui vendent les cacahuètes sur le marché, mais aussi, par exemple, l'unité à la réconciliation, c'est les femmes. Ibuka, d'abord, c'était surtout des femmes. Un peu partout, il y a les femmes et les associations, mais vraiment les femmes travaillent. Elles ont été les premières à dire, de toute façon, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse quelque chose. Elles ont été les premières à reconstruire des maisons, alors que c'est interdit par la tradition. Normalement, la femme ne peut pas monter au-dessus d'une maison. Donc, monter au-dessus d'une maison, non.
Toit,
sur le toit d'une maison pour construire, c'est une affaire d'hommes, ils n'ont qu'à travailler, ces hommes, enfin. Mais là, elles ont fait des choses. Et puis, la réconciliation, les femmes l'ont fait presque, je dirais, spontanément. C'est dingue le nombre de femmes qui ont adopté des orphelins de génocidaires. Voilà. Et je ne sais pas si c'est une manière de s'auto-persuader que l'humanité existe encore en elle, mais très tôt, on a vu des femmes qui ont pris pitié pour les enfants de génocidaires et qui les ont adoptés. Et de toutes les femmes rescapées, même si qui n'ont pas adopté les enfants ou tout, c'est fou de voir le nombre de personnes qu'elles ont en charge. Et elles tiennent encore. Je ne sais pas par quelle magie.
Bon, je pense que c'est les femmes qui sauveront le Rwanda. Ça, je pense que c'est quasiment une évidence.
S'il n'y a pas d'autres questions directement sur les gachacha. Ah, si, vas-y.
Moi, j'ai une question un peu sur le rôle d'établissement de la vérité des gachacha. Donc, vous avez beaucoup parlé du rôle du témoignage, que tout est fondé sur le témoignage. Je voulais voir, d'une part, si vous pensez que les gachacha répondent aux attentes de la population en matière d'établissement de la vérité. Donc vous avez déjà un peu répondu à ma question, mais si vous pouviez approfondir vos opinions personnelles. Et d'autre part, au niveau de... Donc vous parliez du mensonge et vous avez dit que c'est au juge de faire la part du mensonge et de la vérité. Et donc de voir les difficultés que les gachacha peuvent rencontrer... Pour établir la vérité, et puis quelle vérité aussi, puisque effectivement tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus. Et notamment parce qu'en matière de justice, dans un tribunal, il y a la question des preuves et le niveau de la preuve, et donc comment tout ça se retrouve dans les gachacha.
Moi je voudrais dire simplement, peut-être que tu en diras plus long, mais c'est vrai que dans ce génocide, la justice repose essentiellement sur les témoignages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves écrites, ou très peu, on ne trouvera pas de choses concrètes, etc. Et c'est vrai que quand une justice repose essentiellement sur le témoignage, eh bien, elle risque de se trouver devant de faux témoignages. Et j'ai le souvenir en particulier d'avoir, quand on a créé, ça fera après, peut-être on en parlera, mais quand on a créé le collectif des partis civils, j'ai essayé de prendre contact avec Serge Klarsfeld, que tout le monde connaît, dans sa lutte contre les nazis. J'ai parlé un petit peu avec lui, mais la discussion a tourné court très vite, parce qu'il m'a dit pratiquement d'emblée, moi je ne crois pas au témoignage. Je ne crois pas au témoignage. J'ai dit, mais M. Klarsfeld, dans le cadre du génocide du Rwanda, où il n'y a pas de preuves concrètes, etc., où on ne trouve pas de pièces à conviction, sur quoi la justice va-t-elle se baser si on part du principe que tout témoignage est mensonger, hein? Donc ça pose un vrai, vrai, vrai problème. Et c'est vrai que dans tous les procès auxquels on a pu assister, eh bien c'est toujours, je dirais presque, une parole contre une autre. Et c'est vrai qu'il est difficile parfois de faire la part des choses entre le vrai témoignage. Et je vois, nous, par exemple, dans notre poursuite des génocidaires, quand on cherche des plaignants, quand on cherche des témoins, moi j'insiste toujours, je demande toujours, mais est-ce que toi tu as vu? Alors évidemment, c'est toujours embêtant, parce que quand il s'agit de rescapés, en général, les gens qui sont rescapés, en général, s'ils sont rescapés, c'est parce qu'ils se cachaient. Donc ils n'ont pas pu voir ce qui se passait. Ils n'ont pas assisté, souvent, il y en a qui ont assisté, on l'a vu, bien sûr. Mais dans un grand nombre de cas, les gens n'ont pas assisté à la mort de leur père, de leur mère, de leurs enfants, puisque eux, s'ils ont échappé, c'est parce qu'ils s'étaient cachés. Donc, on va s'appuyer sur des témoignages de seconde main, pratiquement, ou des gens qui ont vu, qui ont... Vous voyez ? Alors, ça pose de vrais problèmes. Mais je dis, il ne peut pas en être autrement dans le cadre du génocide au Rwanda.
Alors, la question des preuves me ramène souvent à quelque chose d'un peu plus lointain, dans la mesure où parfois on pense le génocide en opposant la civilisation à la barbarie. Et effectivement, une société qui n'écrit pas, qui ne tient pas la liste, où on ne trouve pas de documents, c'est une société, on pourrait dire que c'est une société barbare. Ce serait se tromper, parce que même si le Rwanda, c'est en Afrique, c'est loin, c'est tout ce qu'on veut, le génocide de 94, ce n'était pas une barbarie qui exclut automatiquement la civilisation. Les hommes qui ont conçu ça, c'est des hommes qui avaient été, enfin j'en cite souvent un, le responsable de la radio rwandaise avant qu'il ne soit responsable de la radio-télévision des Mille Collines ou Radio Machette, pour ceux qui ont l'habitude. C'est un type qui avait été diplômé à la Sorbonne, qui avait été distingué d'ailleurs. Parmi les membres du jury, il y avait Jean-Pierre Chrétien, qui ne peut pas être suspecté de l'avoir formé à la manipulation de la machette. Il y avait les professeurs d'université, il y avait les médecins. Et au Rwanda, on ne formait pas les médecins. Pour être un médecin, il faut avoir fréquenté une université belge, française, américaine, canadienne. Mais donc, c'est des gens qui ont dû goûter à la civilisation quand même. Quand ils faisaient les réunions, ils savaient plus que leur future victime ce qu'il attendait. Et dans un génocide, puisque ce n'est pas quelque chose qui tombe par hasard, on se prépare. On a des noms de code. On peut trouver beaucoup de documents radio, écrits, où on parle de travail, d'autodéfense, se protéger contre l'ennemi, retrouver l'ennemi où qu'il soit. Mais l'ennemi, on le connaît. D'ailleurs, en 90, dès la première attaque du Front patriotique rwandais, l'ennemi, dans la revue de l'armée, avait été désigné. C'était le Tutsi de l'intérieur qui ne rêve que d'une chose, c'est de voir ses frères revenir et exterminer les Hutus. Et c'était bien sûr le Tutsi de l'extérieur. Cet ennemi, tout le monde le connaît. Au Rwanda, quand on dit Inyangarwanda, d'ailleurs c'était accolé à tel point que quand on dit Inyenzi, on ajoute automatiquement Inyangarwanda. Inyenzi, c'est les cafards, les Kankrola, c'est le Tutsi, c'est connu de tous, sauf peut-être les jeunes enfants. Inyangarwanda, ça veut dire celui qui est le Rwanda. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver au Rwandais, parce qu'on n'imagine pas qu'on puisse ne pas aimer le Rwanda. Dans l'imaginaire rwandais, c'est comme ça. Donc, effectivement, j'en reviens à la question de la preuve. Effectivement, il n'y a pas eu de liste de personnes qui devaient tuer, mais la liste des personnes à tuer en priorité avait été fixée. C'était connu avant le génocide et ce fut vrai après. L'autre chose qui permettait de travailler vite en dehors, travailler, je mets les guillemets, c'était la carte d'identité. Dans nos cartes d'identité, c'était clairement marqué qu'on était Hutu, Tutsi, Hutua, parce qu'on ne parle pas souvent des toits, mais il y a aussi quelques toits au Rwanda. Le fait de ne pas posséder une carte d'identité, que ce soit parce que vous avez égaré ou parce que vous n'êtes pas rwandais, vous pouviez être sénégalais ou malien ou avoir une mauvaise idée de ressembler aux Tutsis, ça signifiait la mort. Encore une fois, des documents. Il y a autre chose aussi. Au Rwanda, il n'y a pas une tradition littéraire. Le rwandais, c'est la parole. Vous avez un exemple devant vous. Le rwandais existe par la parole. Tout est dit. Mais la parole, on ne joue pas avec, parce que, comme le disait la dame d'ailleurs, à force de parler, on finit toujours par se trahir. Il y avait eu un travail énorme de propagande. Moi, c'est mon sujet de travail au départ. La propagande avait préparé les esprits. On savait qui devait mourir. Et comme le dit si bien Jean Hatzfeld, ce fut d'abord et avant tout un génocide de proximité. On tuait ses voisins, on les connaissait, on connaissait leurs habitudes. En plus, ça ne demandait pas de logistique de camion qui va transporter ceux qui vont tuer. Ça s'est passé plus tard, quand il fallait déplacer des jeunes gens atteints du sida pour aller contaminer d'autres, ou quand il fallait prêter main forte, quand il y avait résistance, ou qu'il fallait terminer vite le travail avant que le FPR ne prenne la région. Mais en général, c'était parti vraiment de maison à maison. Certains ont tué leur famille. Et ils l'ont fait en groupe. Ça, c'est une autre caractéristique du génocide. Et c'est là où aujourd'hui on se dit que les types qui ont pensé les Gatchatcha n'étaient pas complètement fous. Quand ils ont libéré les premiers prisonniers parce qu'ils avaient avoué, on a dit mais alors, d'ailleurs dans le premier film de Anne, on voit un type qui dit ben d'accord, s'il suffit d'avouer qu'on a tué pour sortir de prison, eh bien ces types quand ils sortiront, on va les tuer et il suffira qu'on dise effectivement nous les avons tués, nous demandons pardon et on nous libérera. Et c'était ça alors, le sentiment général qui régnait. Mais au fait, quand ils ont avoué, ils ont dit peut-être une partie pour essayer de se racheter. Mais puisqu'ils travaillaient en groupe, en général, quand ils dénonçaient, ils en voulaient à son copain qui a fait la même chose que lui, mais qui lui a le droit de rester sur les collines. Et quand ils le dénonçaient, le copain, il revient, il dit « Ok, c'est vrai que nous l'avons fait, mais on a fait ceci. » Donc c'est ça la collecte des informations. Et au fait, beaucoup de types, moi j'assiste à ça en traduisant soit ce que je reçois pas sur mon initiative privée ou par le travail d'Anagion qui continue, c'est qu'on voit les gens qui petit à petit arrivent à être complètement coincés. Et puis même si ce sont des tueurs, au bout d'un moment, ils en ont marre. Il y en a qui demandent à parler parce qu'ils n'en peuvent plus avec leur conscience. Ah, il y en a tout plein. Et il y en a qui sont devenus fous. Il y a une histoire très connue au Rwanda, c'est un type qui avait demandé l'autorisation de sortie, qui est allé dans la bananeraie de son ami, qui a déterré son ami en disant « voilà où est-ce que je l'avais mis ». Et comme on lui avait coupé la tête, il s'était emparé du crâne. Et il trimbalait le crâne partout, parce qu'il disait « c'est mon ami, il ne veut pas que je le dépose ». Il était travaillé par ce qu'il avait fait. Puis c'est des types, certains ont tué leurs enfants. L'autre a vu, cet enfant finira par parler. Il y a des enfants qui étaient cachés quelque part, qui ont vu. Peut-être chercher la preuve écrite comme Himmler, tu dirigeais ceci et cela, c'est difficile. Mais peut-être qu'il va falloir apprendre à se déplacer un petit peu, à ne pas calquer les valeurs de jugement quant à ce qui est vrai ou faux. Est-ce que d'ailleurs peut-on parler de vérité ou de mensonge à 100%? Je crois qu'il va falloir changer ces points de repère occidentaux et s'inscrire dans une autre culture. Et je ne dis pas qu'à 100% on aura la vérité, mais au moins on saura, et là j'en reviens à votre première question, la première chose qu'attendent les Rwandais, parce que nous disons justice, justice, mais c'est quoi la justice au fait? La justice, pour moi, la première justice, ce que je voudrais savoir, c'est de regarder ceux qui ont tué ma famille. Et j'aimerais savoir comment ils y sont arrivés. C'était des gens à qui on n'avait fait aucun mal. Je dirais même, la plupart, c'est des gens qui avaient reçu du bien de ma famille. Je connais un type, là je suis dans le témoignage. Moi, quand j'ai commencé à prendre conscience de la vie, ce type, il vivait déjà chez moi.
Après, il s'est marié. Mon père a construit une maison pour lui. On a organisé son mariage. En 94, il a tué mes petites sœurs. Qu'on le tue, qu'est-ce que ça me ferait? Moi, j'aimerais, si c'était possible, qu'il me raconte comment il en est arrivé à ça. Ce serait ma première justice. On dirait, mais ils sont dingos, ces Rwandais. Ils aiment la parole, c'est vrai. Mais quand même, cette parole, moi, m'apporterait bien plus que 50 ans de prison. Alors, c'est quoi la justice? La justice, c'est aussi de retrouver. J'aimerais retrouver le corps de mon père. Quand j'ai retrouvé, certains, j'étais heureuse. Je pleurais, mais j'étais heureuse. C'est peut-être ça, ma justice aussi. La dame dit, j'aimerais qu'on me reconstruise ma maison. Parce que ceux qui sont morts, à la limite, ils sont coupables d'être morts. Il y a de petites choses du quotidien. La vie ne se reconstruit pas seulement avec une peine de prison. C'est d'abord le fait de dire, je suis victime. Je n'ai pas honte d'avoir survécu. Je n'ai pas honte d'avoir été violée. C'est lui qui m'a violée. C'est lui qui a tué ma famille. Qu'importe si dans les livres de droit à la Sorbonne, je ne sais où, on ne reconnaît pas ça comme justice. S'il y a une chose que les Rwandais ont appris aussi, c'est que leur histoire les concerne d'abord eux. Parce qu'ils savent ce que c'est l'abandon. Et surtout, ils ont vu que finalement, même si nous pleurons tous, il y en a qui ont reçu des coups de machette. Il y en a d'autres qui peuvent compatir, mais ça s'arrête là. C'est une nouveauté. Les Rwandais étaient un petit peu autarciques dans leur esprit, mais ça s'est renforcé. Ils font ce qu'ils peuvent, et puis tant pis. Si on accepte, on accepte. Si on n'accepte pas, ils ont tendance à passer. Voilà.
Ce que je proposais dans un deuxième temps, là le temps avance un petit peu, on a parlé par rapport au gachacha du fait que ça pouvait mettre fin à un cycle d'impunité comment Esther disait la dernière fois, les petits tueurs, avec beaucoup de guillemets, et je trouve la phrase épouvantable, mais bon. Mais il y a aussi d'autres niveaux de justice dont on parlera la semaine prochaine, mais on va profiter de ta présence pour une des choses qui moi m'intéresse et me touche personnellement chez Survie, c'est ce travail contre l'impunité, donc on fait par rapport aux responsabilités françaises au niveau de l'association, mais aussi le travail en partenariat pour ce qui se passe ici pour les présumés génocidaires qui ont trouvé refuge en France et qu'on a tant de mal à faire reconnaître comme même simplement présumés coupables. Donc ça, c'est le collectif dont tu es président.
Oui, donc quelques mots effectivement sur le collectif des partis civils pour le Rwanda. D'ailleurs, Assumpta en est la secrétaire. Donc c'est une association qui a été créée, enfin qu'on a créée avec mon épouse en 2001, et bien suite au procès qu'on appelait le procès de Bruxelles, c'est-à-dire que la Belgique a été pratiquement le premier pays européen. Bon, la Suisse a bien jugé un militaire par un tribunal militaire, mais c'est la Belgique qui a vraiment montré l'exemple dans la poursuite des génocidaires qui sont réfugiés en Europe. Et donc à la suite du procès de Bruxelles, au printemps 2001, auquel on a assez participé, ça a duré longtemps, mais on a pu passer plusieurs semaines, eh bien, on a décidé au retour de créer à notre tour un collectif des partis civils en France. Alors, on n'était pas les premiers à s'occuper de justice, puisque Laurence vient de le dire, Survie était déjà dans la course avant nous, FIDH, etc. Mais il manquait, je dirais, peut-être un petit peu la composante rwandaise dans cette lutte contre les présumés génocidaires. Et puis, bon, peut-être qu'on avait une connaissance, je dirais, un petit peu plus pointue à la fois du pays et des personnes en question. Donc, on a créé ce collectif des partis civils on s'est mis à poursuivre un certain nombre de présumés génocidaires qui sont en France. Alors actuellement, il y a 6 présumés génocidaires qui sont poursuivis par la justice française. On peut donner leur nom puisqu'ils sont connus, ils sont toujours en liberté, mais ils sont connus. Le plus médiatique, le premier, c'est l'abbé Wenceslas Muniechaka, qui est prêtre actuellement dans ici au nord de Paris, dans la région de Évreux. Lui, il est poursuivi depuis très longtemps. Il y a des plaintes qui ont été déposées depuis très longtemps. D'ailleurs, la France a été condamnée par la Cour internationale des droits de l'homme il y a 2 ans pour retard apporté à la justice dans l'affaire Muniechaka. Donc, il y a l'abbé Muniechaka. On a un médecin gynécologue, Sosten Muniemana, qui réside dans la région de Bordeaux. On a un ancien préfet du Rwanda, Laurent Boutibaruta, qui habite la région de Troyes. Donc ça, ce sont 3 dossiers, je dirais un petit peu parmi les plus avancés. Et puis, il y a deux militaires, Serubuga et Kayumba, qui ont également des dossiers, mais actuellement, leurs dossiers sont très maigres. Et un de notre travail va être certainement d'essayer d'étoffer ces dossiers. Et puis, nous, au collectif, alors ces génocidaires-là sont déjà poursuivis aussi par Survie ou FIDH. Et puis, tout récemment, nous, cette semaine, c'est pas plus tard que cette semaine, je viens de rencontrer un de nos avocats. J'arrive du Rwanda il y a 3 semaines, où j'ai pu finalement... finaliser un dossier, parce que le problème de notre association, c'est que n'ayant pas 5 ans d'existence, certains tribunaux ont rejeté nos plaintes. Et donc on s'est dit qu'il fallait favoriser les plaintes individuelles de Rwandais. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai passé tout le mois de juillet dernier au Rwanda pour essayer de récolter des plaintes. Bon, ça a traîné en longueur, il faut trouver les gens, il faut qu'ils acceptent de témoigner. Après, l'avocat avait oublié de me dire qu'il fallait remplir une autorisation, enfin un mandat à remettre à l'avocat. Donc j'ai dû retourner au Rwanda il y a un mois et demi, où j'ai passé 3 semaines pour retrouver enfin tous les plaignants. Et finalement, on a pu déposer une plainte, je pense que ça a dû être fait là hier ou avant-hier, on a pu déposer une plainte avec 27 plaintes individuelles. Donc c'est un dossier qu'on va suivre de très près. Bon, je ne peux pas vous dire encore qui il concerne puisque tant que la personne en question n'est pas avertie, il est préférable de ne pas donner son nom, même si actuellement ils sont un petit peu aux abois et ils ne savent pas trop où aller. Voilà. Et puis il y a d'autres dossiers, parce qu'il y a d'autres génocidaires qu'on connaît, parce que pour pouvoir porter plainte ici contre des présumés génocidaires, il faut qu'ils soient en France au moment du dépôt de plainte. La loi de compétence universelle nous autorise à porter plainte contre des étrangers qui ont commis des crimes à l'étranger sur des étrangers, à condition qu'ils soient présents en France. C'est ça la loi de compétence universelle. Donc il faut qu'on s'assure avant qu'ils sont bien en France, et ce n'est pas toujours facile. Et ça, la justice ne nous facilite pas la chose, parce que vous vous rendez bien compte que dans un crime classique, il vous suffit de porter plainte. Si on a tué votre père, votre frère, vous déposez plainte, éventuellement plainte contre X, et puis c'est la justice qui va se débrouiller pour enquêter, pour retrouver les coupables. Or, dans le cadre du génocide, nous, on nous demande de fournir nous-mêmes presque les preuves. C'est la raison pour laquelle ça nous prend beaucoup de temps, hein, puisqu'il faut rencontrer des plaignants, il faut que leur plainte soit recevable, donc ça nous demande beaucoup de déplacements, beaucoup de temps. Souvent, ces déclarations-là sont faites en Kinyarwanda, donc après, il faut les traduire. Assumpta vous dira qu'on a deux métiers, quoi, hein. On a le métier qui nous fait manger, et puis le soir, il y a un deuxième métier, ben, c'est celui de qu'on fait... Dans la poursuite des présumés génocidaires qui sont en France. Et je retourne au Rwanda dans 3 semaines parce que j'ai mis en route un autre dossier contre un présumé génocidaire assez connu qui est ici en France. Et j'aimerais bien que lui aussi un jour puisse rendre compte, au moins devant la justice française, des crimes qui lui sont imputés. Voilà un petit peu en gros ce qu'est notre travail, quoi. Mais c'est vrai que ça demande une énergie folle. Beaucoup de... Pas se décourager, parce que beaucoup de gens nous disent de toute façon, c'est pas la... À quoi bon, vous vous décarcassez pour rien. Récemment, il y a des gens qui m'ont dit ça. Hein, Alors il y a quand même, vous dire quand même que les choses avancent, puisque tous les dossiers sont maintenant systématiquement regroupés ici à Paris, au tribunal de grande instance de Paris. Et actuellement, il y a deux juges d'instruction, deux femmes, qui sont en charge des dossiers. Alors là aussi, on nous a amené en bateau, parce que dans certains dossiers, il y a eu déjà 3 ou 4 juges qui ont été nommés. Alors quand un juge abandonne la course pour X raisons, eh ben, on donne ça à un autre juge qui n'y connaît rien, qui ne connaît même pas le Rwanda peut-être, donc il faut qu'il s'informe, etc. Bon, actuellement, il y a quand même deux juges d'instruction, Madame Pousse, la doyenne des juges d'instruction parisiens, et puis Madame Ganassia, une autre juge en charge des dossiers, qui se prépare, parce que c'est la condition indispensable pour que nos plaintes avancent, qui se prépare à partir au Rwanda en commission rogatoire. Je pense que tout est réuni actuellement pour que les deux juges puissent se rendre au Rwanda. Nous, on attend avec impatience que ça se fasse, parce que effectivement, c'est la seule chose qui va faire débloquer la situation. Et la doyenne des juges parisiens pense boucler les dossiers à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine et envisage un procès peut-être l'année prochaine. Dans des délais, on commence déjà à nous donner un petit peu des dates. Donc c'est quand même, c'est encourageant, et ça nous encourage à continuer. C'est pas l'énergie qui nous manque. Hein.
Juste un petit témoignage encore une fois. Ça fait quelques jours que Survie a fait parler sur l'implication de la France au Rwanda. Vraiment, je crois que si un génocidaire rwandais qui était devenu un Français comme tout le monde, s'il devait se retrouver devant les tribunaux français, je crois que ce serait déjà une certaine réhabilitation de cette France qui a été tachée au sang des Tutsis du Rwanda. L'armée française ou d'autres seront jugés, c'est très bien, je ne me dis pas que c'est rien, mais que ce pays, mon pays d'adoption, accepte de juger enfin mes frères rwandais ici pour ce crime qu'ils ont commis, ce serait quelque chose d'important. Et merci Alain d'insister sur le fait que là, on se retrouve entre Français et Rwandais, main dans la main, pour dire nous réclamons justice pour les Rwandais et une justice qui se passe en France. C'est très important dans la réconciliation que nous devons faire entre nous et cette France qu'on n'a pas envie de condamner entièrement. Un ennemi supplémentaire ne nous apporterait rien.
Je peux vous dire que pour avoir l'occasion de rencontrer de temps en temps les plaignants au Rwanda, en particulier souvent ce sont des veuves, je peux vous dire que toutes ces personnes-là attendent avec une folle impatience qu'il y ait un jour des procès, parce que les rescapés eux-mêmes n'y croient plus trop. Ça fait 12 ans que le génocide a eu lieu. Et quand on rencontre des rescapés au Rwanda, les gens, les femmes sont devenus un peu fatalistes en disant jamais, jamais il y aura de procès, effectivement. Et moi, chaque fois que je les rencontre, je vais les voir. Chaque fois que je vais au Rwanda, je vais les voir. Et je leur dis, comptez sur nous. Parce qu'effectivement, elles ont rencontré beaucoup d'Européens qui sont venus les voir pour les interroger, etc., pour leur demander, poser des questions. Mais elles n'ont jamais rien vu venir. Et je leur ai fait la promesse que nous irions au bout des dossiers que nous avons constitué. Et je crois que ces personnes-là, et je pense surtout aux veuves, elles attendent ça vraiment avec une impatience considérable. Et moi, rien que la pensée de ces femmes-là, ça me donne une énergie incroyable. Parce que rien que pour elles, je pense qu'on est prêt à tout. Alors, peut-être deux mots, vous avez entendu aussi parler un peu du livre de Péan. Alors, c'est pas le sujet, c'est pas le... Mais parce que, non, je dis parce qu'on a été... Parce que Noir Fureur, Blanc Menteur, le livre de Pierre Péan que certains ont peut-être lu, j'en dis deux mots parce que le collectif des partis civils a été accusé par Péan, enfin, et le collectif, et puis son président, et sa femme, et puis, bon, etc. Donc on a été accusé, et Survie et tout et d'autres, on a été accusé nommément de faire partie des blancs menteurs. Bon, nous avons choisi de ne pas répondre, nous avons choisi de ne pas porter plainte, de ne pas aller en justice, parce que je peux vous certifier que tout ce qu'il dit sur nous, ce sont des mensonges, et que s'il y a un blanc menteur, il y en a au moins un, et pour moi il n'y en a qu'un, c'est lui. Mais nous avons décidé de ne pas aller en justice, contrairement à toute une série, tout un groupe de Rwandais, parce que nous avons préféré d'abord, d'une part, consacrer notre énergie à la poursuite des génocidaires qui sont en France, et puis je crois que ça aurait été un peu trop d'honneur pour lui, parce que peut-être on pense qu'il n'attendait que ça, on pense qu'il attendait un procès, ce qui allait faire booster un petit peu déjà les ventes de son livre, et puis se faire une publicité. Donc nous, on a préféré ne pas porter plainte. Voilà, c'était simplement comme ça, une petite parenthèse. Mais pour vous dire que, bon, on est quand même attaqué, quoi. Hein. On est attaqué. Mais ça ne nous démonte pas, c'est pas... Au contraire, ça donne aussi du courage. Vous avez sur la table au fond un petit document qui s'appelle Je porte plainte, c'est à la fois un bulletin d'adhésion, mais ça peut être aussi simplement un formulaire dans lequel on porte plainte, et ces plaintes-là, nous les envoyons régulièrement au ministre de la Justice, parce qu'il y a tout ce combat aussi au niveau des politiques, hein, évidemment, vous imaginez, si je vous montrais le dossier des courriers qu'on a échangés avec les différents ministres de la Justice, des présidents de la République, etc., ça donne beaucoup, donc... C'est un document qu'on peut simplement signer sans forcément adhérer, mais c'est vrai qu'aussi notre combat nous
on a besoin
et d'adhérents et d'argent pour mener à bien tout notre combat, parce que bon, vous voyez, par exemple ce soir on vient de faire 3 heures de route là pour venir, hein, 3 heures de route, on va en faire encore 2 heures parce qu'il y aura moins de monde, ça va faire 2 heures pour le retour, mais bon
merci d'être venu.
Non, mais merci. Je veux dire, merci surtout à Laurence de nous avoir invités, parce qu'on est toujours prêt à se déplacer. Alors, je le dis même, je peux même le dire à vous, si dans les lieux de vie que vous habitez, là où vous habitez, vous êtes engagé dans des associations, peut-être, vous êtes dans des quartiers, si vous pensez que ce sujet-là peut intéresser des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à faire appel à nous. Alors, pas tout de suite, hein, parce que là, on arrive dans la 12e commémoration. Vendredi on revient, il va y avoir la commémoration au mois d'avril, tout ça, mais on peut intervenir n'importe quand, hein, on est toujours heureux de le faire. Plus on parle, plus on se fait connaître, plus la justice peut avancer, je pense.
Je pense qu'on va arrêter là la soirée. Je vous remercie d'être venus. Je ne regrette qu'une chose, c'est que nous ayons été un petit peu moins nombreux ce soir qu'hier soir. C'est dommage pour eux. La semaine prochaine, il y a une autre soirée organisée autour du thème justice et impunité. On développera plus la partie pour la France, enfin pour ce qui se passe en France, la partie commission d'enquête citoyenne, Jérôme Lapradelle pour la partie juridique. Et puis Sharon Courtou pour la CEC en général, et puis donc les autres parties qui concernent la justice au Rwanda et les engagements contre l'impunité qui vont autour. Voilà. À très bientôt. Merci.